Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbe pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Nous sommes ravis de vous présenter aujourd'hui Sophie Dumoutet, maman de 3 enfants très investis pour le bien-être des bébés, des enfants et des parents. Cet épisode est consacré à l'écoute des besoins des bébés. Sophie nous a ainsi partagé sa philosophie de vie autour de l'éducation des enfants à travers son expérience de maman et surtout de spécialiste de psychologie cognitive du développement et de professeur de yoga. Nous avons parlé de violence obstétricale, des besoins fondamentaux des bébés, des massages bébés, mais surtout de l'harmonie musicale comme elle le dit si bien à trouver instinctivement dans la relation parent-enfant. Ce témoignage est d'une grande tendresse. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie, Sylvie.
Bonjour Sophie.
Nous sommes très heureuses de vous accueillir au micro des Adultes de Demain aujourd'hui. Alors vous avez un parcours très inspirant et on en reparlera pendant l'entretien. Donc très rapidement, vous avez travaillé pendant plusieurs années en grande entreprise pour ensuite vous former à un certain nombre de pratiques autour du corps, de la maternité, de l'enfance, etc. Donc vous êtes depuis professeur de yoga, hypnopraticienne, spécialiste du massage bébé, récemment formée à l'hypno-yoga et vous animez également des ateliers sur la parentalité, le développement et le bien-être des bébés, des enfants et de leurs parents. Donc, je me demande comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça en même temps. Et j'ai hâte de découvrir votre parcours. Et peut-être qu'on peut démarrer par votre premier accouchement que vous décrivez comme un électrochoc. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus et en fait l'impact que ça a eu sur votre parcours professionnel et personnel, bien évidemment?
Oui, alors mon premier accouchement, comme tout le monde, un peu j'attendais à être un petit peu dorlotée, à être entourée, enveloppée, on va dire. Et le contraste a été saisissant, puisque quand c'est un accouchement qui a duré assez longtemps. Et en fait, le premier choc, c'était que je me suis retrouvée toute seule toute la nuit, sans mon mari, déclenchée, sans personne pour m'aider, absolument toute la nuit. Pratiquement, ils sont juste venus 5 minutes pour vérifier, pour me dire que tout allait bien. Mais en fait, je leur disais que non, mais c'était pas grave. Voilà, enfin il y a eu beaucoup de choses accumulées, je vais pas tout décrire, mais ça ça a été l'élément déclencheur. Et puis aussi l'infantilisation, la manière dont on parle aux mères, dont on leur dit comment il faut faire, enfin les paroles blessantes, mais elles bloquent pas, vous faites ce que vous voulez mais je veux des résultats. Ça fait penser un peu à l'école, c'est un peu comme si on retournait à l'école. Et puis, on va devenir mère, donc c'est assez choquant, en fait, de traiter les femmes comme ça, alors qu'elles vont au moment où elles deviennent mères, ou au moment où elles ont besoin de soutien. On sait très bien qu'au moment de l'accouchement, on a besoin d'être soutenue, d'être portée, d'être protégée, et c'est un petit peu tout le contraire qui s'est passé, plus psychiquement, aussi un peu physiquement, mais surtout psychiquement. Et ça m'a travaillé beaucoup après l'accouchement. J'ai essayé à l'époque, c'était il y a 22 ans, mon fils a 22 ans. Enfin, la violence obstétricale, c'était un truc, c'était un non-sens. J'en parlais, je disais, mais il s'est passé ça et ça et ça, comment ça se fait? J'en disais, mais ça va, t'as ton bébé, tu dois être heureuse, t'es en bonne santé, ton bébé est en bonne santé. Moi, je me sentais un petit peu cassée, psychologiquement, psychiquement, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Et je me suis dit que plus jamais ça m'arrivera. Ce qui fait que j'ai accouché après 2 fois à la maison. Pas par mode, c'est pas du tout, je vende pas l'accouchement à la maison. Il y a des femmes qui accouchent très bien à l'hôpital aussi, c'est pas un jugement, mais moi je me suis dit plus jamais je me retrouve toute seule, plus jamais on me parle comme ça, plus personne ne m'infantilise, jamais. Au moment où j'accouche, au moment où je donne la vie, parce que c'est un des moments les plus importants, un moment central, et c'est pour ça que je, quelque part après, ça a changé ma vision, et j'ai cherché de toutes parts à comprendre, et faire en sorte que ça n'arrive plus ni pour moi ni pour les autres. Voilà, en quelque sorte. Voilà, redonner le pouvoir aux femmes dans cet instant tellement important, parce qu'elles vont en avoir besoin. On a besoin de soutien quand on va élever un petit bébé, parce qu'il y a le marathon de l'accouchement, puis après il y a le triathlon des 3 premiers mois. Donc c'est dur et on a besoin de se sentir forte à ce moment-là. Et l'accouchement peut nous donner cette force pour être le tremplin, comme un tremplin pour la suite, parce que c'est pas forcément simple la suite.
Mmh. C'est certain. Et comment tout cela a nourri vos réflexions de changement de vie professionnelle ?
Eh ben, il se trouve que j'avais été accompagnée en yoga par Marie-Hélène Demey, qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire pendant toute ma grossesse. Donc déjà, ça m'a ouvert des voies. Elle nous faisait lire des livres. Elle nous parlait de Frédéric Le Boyer. Voilà, c'est grâce à elle que j'ai découvert le yoga. J'avais fait beaucoup de danse auparavant, hein. C'est pour ça aussi que je suis arrivée à ça. Et ça m'a fait renouer avec la passion du corps que j'avais déjà, parce que j'ai fait beaucoup de danse. Et je l'ai plus lâchée par la suite, hein. Et c'est comme ça que j'ai fait un bilan de compétences après la naissance de mon premier enfant, pour me poser la question, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Je pouvais pas rester sans rien faire après ce qui s'était passé. Et puis voilà, j'étais en grande entreprise, mon métier me plaisait bien, hein, il fallait que je passe à autre chose. En tout cas, ça a été le début de ma réflexion, de me dire mais vers quoi j'ai envie d'aller. Voilà. Et après l'accouchement, donc en post-natal, j'ai rencontré Bernadette de Gasquet, qui est quelqu'un aussi d'extraordinaire, qui a enfoncé des murs, hein. C'est vraiment quelqu'un de très courageux, qui avait une méthode atypique, hein, qui allait à l'encontre de tout ce qui se faisait en obstétrique, on va dire. Et je l'ai trouvée, elle était très inspirante. Moi, le premier cours que j'ai pris avec elle, je me rappelle toujours, elle regarde mon fils, elle me dit, mais regarde ce qu'il fait. T'as vu, elle admirait mon fils, en fait. Et moi, j'avais l'impression d'avoir des culs de bouteille. Et je me disais, mais ah oui, c'est vrai. Enfin, je le trouvais déjà formidable. Hein. Ça m'avait frappé, cette intelligence des bébés dans leur regard et tout. Même à la maternité, je me rappelle, j'ai dit à mon fils, parce que ma montée de lait n'arrivait pas. À la maternité, forcément, j'étais tellement fatiguée, épuisée par l'accouchement et par le peu de confiance qu'on me faisait. On me disait que j'avais pas assez de lait, tout ça. J'ai regardé mon fils, et il voulait pas nous laisser sortir parce que il avait perdu les 10%. Et j'ai regardé mon fils, je lui ai dit, Tanguy, il faut qu'on sorte de là. C'est assez paradoxal de demander l'aide à son bébé, mais ça a marché. On est sorti de là. Et on a réussi, j'ai réussi à allaiter, voilà, et cette confiance, je suis allée la puiser en moi, je suis allée puiser dans le regard de mon bébé, voilà. Et après, donc, ces rencontres avec Bernadette de Gasquet, ça a été déterminant parce qu'elle m'a amenée à travailler justement sur le prénatal, le postnatal, elle a une méthode totalement atypique sur les abdos qui va à l'encontre de ce qu'on fait aussi. Moi, j'aime bien tout ce qui va à l'encontre de la mode, de ce qui se fait pas. Et elle m'a amenée à réfléchir sur l'accouchement, etc. Et puis, je me suis mise carrément au 3/5e. Ce qui est quand même assez fort dans l'entreprise. J'ai imposé ça un peu à mon chef. Et puis, bien sûr, je me suis fait mettre sur la touche, plus ou moins, au bout de 2 ans. Et puis là, j'ai décidé de reprendre des études, en fait, suite à mon bilan de compétences. Et j'ai commencé un master en psychologie cognitive. Voilà, j'avais une équivalence, en fait. Je pouvais faire un master en psychologie. Et je l'ai fait. Au départ, j'avais proposé à mon chef, parce que j'étais dans la navigation automobile, donc j'aurais pu très bien poursuivre, travailler sur tout ce qui était cognitif et relations homme-machine. Je me dis, tiens, je vais faire, puisque mon chef, ça l'intéresse pas. Il m'a dit, bah, tu fais ça pour tes hobbies. Ok, je fais pour moi, ok, je fais sur les bébés. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait un master sur la perception tactile des nouveau-nés et j'ai été passionnée. Hein. Ça a été dur, hein, parce que c'était 2 ans, 2 ans, j'avais 33 ans. Et en plus, je suis tombée enceinte en plein milieu de mes études. Et ouais. Je continuais à bosser. et puis au moment où je suis tombée enceinte, j'ai arrêté de bosser carrément. J'ai subi le harcèlement aussi au boulot. Hein. C'était très dur. Et je me suis complètement branchée sur ces études et sur un autre avenir, en fait, à partir de ce moment-là. Voilà. Et c'est ce qui m'a fait, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Je m'étais formée au massage ayurvédique. Donc, je me suis formée au yoga avec Ajit Sarkar, là, qui nous a quitté récemment, là, au Soleil d'Or. Et qui est quelqu'un aussi d'extraordinaire. Voilà, j'ai rencontré un peu des gens extraordinaires sur ma route, hein. Et voilà, je me suis formée à tout ça. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Voilà. Et pareil, Bernadette de Gascq m'a un peu mis le pied à l'étrier parce qu'elle écrivait un livre sur qui s'appelait Baby sans blouse à l'époque. Et je posais pour son livre avec mon bébé, avec ma petite, ma deuxième que j'avais, qui est née à la maison. Et bien, à un moment, je lui dis, mais t'as vu ce qu'elle fait, ma fille? Regarde un petit peu ses mouvements, c'est extraordinaire, on dirait du yoga. Et puis, je lui dis, pourquoi tu t'écris pas un chapitre dessus? Et elle me dit, mais pourquoi toi tu le ferais pas? Et alors, ça a été comme une étincelle qui allume un feu. Et là, je me suis mise à écrire sur les bébés yogi. Mon premier livre, c'est Bébé yogi, le mouvement à l'état de grâce, où je prends en photo les bébés et je démontre par l'image qu'ils sont des experts en yoga. Donc, j'ai pris ma fille en photo de zéro à... Enfin, je les prenais tout le temps en photo, de toute façon. Déjà, mon fils, à la base. Donc, j'ai collectionné des photos de ma fille, surtout jusqu'à ses 2 ans, quoi. Et puis, j'ai écrit ce livre, Bébé Yogi, à partir de là. Voilà, pour moi, c'est un livre qui ne vieillira pas, puisque de toute façon, ça prend en photo, ça décrit des bébés en train de se développer, naturellement. Je lui demandais pas du tout de faire des postures, mais naturellement, les bébés font des postures de yoga. Et c'est absolument extraordinaire à voir. Et c'est ce changement de regard, vraiment, que je veux transmettre, que les enfants sont intelligents, sont doués, sont déjà des maîtres de yoga. Il y avait Christian Bobin qui disait... que c'était les plus grands moines. Voilà, c'est tout est dit en fait. Et je m'attache à... J'ai regardé un peu tous les auteurs que j'aime beaucoup, et dont Maria Montessori, hein, d'ailleurs, et la plupart des auteurs que j'adore, en fait, ils ont une admiration sans borne pour les petits. Ils ont un regard sur eux, comme Janusz Korczak. Alors, je dois écorcher son nom, hein. C'est un Polonais qui a écrit sur les bébés et sur les enfants, et qui dit, vous êtes fatigué, ça vous fatigue de vous occuper des enfants, vous avez raison. Vous dites, c'est parce qu'il faut se courber, se faire petit, que ça fatigue. Là, vous avez tort. C'est pas ça qui fatigue le plus. Ce qui fatigue le plus, c'est de devoir s'allonger, s'étirer, se mettre sur la pointe des pieds pour ne pas les blesser. Ça, je trouve ça magnifique. C'est ouais, vraiment c'est toute magnifique. toute ma philosophie et tout ce que voilà. Et en ayant ce regard sur les bébés, sur les enfants, en fait, sur le fait, en ayant cette, en développant ce regard, en fait, ben, on a finalement nos enfants se développent sans les pousser, sans en ayant cette croyance que ce sont des êtres bons, intelligents, doués, compétents. Bah, finalement, ça allège beaucoup la tâche parentale aussi. Ça fait du bien pour les parents aussi. Donc, voilà.
Super intéressant. Et alors, comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui votre activité professionnelle?
Eh ben, je dirais que je regarde Top Chef en ce moment. J'aime bien parce que c'est des cuisiniers. ils font de la bonne cuisine, et je suis toujours épatée de voir quand ils parlent d'explosion de goût en bouche, etc. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire que je suis une cuisinière de la parentalité. Je suis une top chef, peut-être pas top chef, mais une chef de la parentalité où j'assemble en fait différentes disciplines. Donc le yoga, bien sûr, et puis je me suis formée à l'hypnose. J'adorais déjà le yoga nidra, hein, qui est la partie mentale, on va dire.
Ah, Sylvie va être contente.
Du yoga.
Oh, j'adore.
que je trouve extraordinaire, hein. C'est un assouplissement du mental, un renforcement du mental, comme le yoga, le hatha yoga l'est pour le corps. Et quand j'ai décidé de me former à l'hypnose en 2015, parce que les sages-femmes de la maternité où j'interviens s'étaient formées à l'hypnose. Et je me dis, tiens, je vais faire la formation. Donc, et c'était génial. Je me dis, mais je le fais déjà, en fait. C'est déjà, j'avais déjà dans mes veines avec le yoga nidra. Et ça m'a aidé à développer encore plus, ce qui fait que j'ai créé, en fait, une discipline qui s'appelle l'hypno-yoga. À partir de 2015, à partir de ma formation, en fait, qui est un mélange de yoga et d'hypnose, où non seulement, bon, d'habitude, il y a le hatha yoga, le pranayama, et puis le yoga nidra, et moi, je mélange un peu les trois, où même sur les postures, en fait, on a des visualisations mentales et des respirations spécifiques qui permettent d'augmenter l'effet des postures, en fait. de les rendre encore plus puissantes et plus intéressantes. Enfin, moi, donc je fais ma petite cuisine, plus les neurosciences, le master que j'ai fait en psychologie cognitive, puisqu'on n'abordait pas seulement, j'ai pas fait que aborder le développement des bébés, mais j'ai aussi abordé tout ce qui est imagerie mentale, tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est perception. Et donc, j'assemble un petit peu tout ça. Et mon dernier dada, c'est l'analyse transgénérationnelle. Forcément, quand on s'occupe des mamans, on s'occupe des ancêtres aussi. Alors, je l'amène pas directement dans mes cours de yoga, quoique si, j'ai commencé un petit peu à introduire cette notion. C'est que, en accompagnant la femme enceinte qui va donner naissance, en fait, on se branche aussi sur la lignée maternelle. Voilà, ça c'est, je le fais au départ pour moi, puis après, hop, j'essaie d'appliquer pour les autres. Donc
c'est super intéressant.
Voilà, je fais du yoga, donc je fais des cours collectifs et puis je fais des consultations aussi, puisqu'en hypnose, on peut accompagner les gens, notamment sur les traumas liés à l'accouchement. De toute façon, l'accouchement, c'est toujours une transformation profonde de la femme. Hein. Toutes les femmes qui ont accouché, voilà, vous diront que soit elles ont changé de métier derrière, soit elles ont changé de vision de la vie, se sont réorganisées autrement. Et donc, à partir de là, comme c'est une grosse transformation, ben, il y a tout un accompagnement psychique, corporel qui va avec. Et donc, le yoga, l'hypnose, les neurosciences, la psychologie cognitive plus le transgénérationnel, ça fait un cocktail, ça fait des épices parfaites pour un
beau
plat,
cocktail.
Un beau cocktail, voilà, c'est ça.
Super. Et alors aussi, vous l'avez mentionné au tout début, mais vous êtes aussi autrice et donc vous avez écrit plusieurs livres.
Oui.
Et il y a quand même une ligne directrice dans toutes ces expériences professionnelles, académiques, etc. C'est que vous cherchez à apaiser le bébé. Et donc nous, on s'est récemment procuré votre livre « Mode d'emploi pour apaiser bébé » qui relie un peu justement toutes ces expériences que vous avez évoquées. Et donc, je me demandais si vous aviez eu des enseignements particuliers suite à la naissance de vos enfants au sujet de l'apaisement des bébés.
Oui, enfin, on va dire que l'enseignement principal de l'arrivée de mes enfants, en fait, de tout ce que j'ai pu vivre, hein, puisque mes enfants sont relativement grands. Hein. J'ai un grand de 22 ans, une fille de 17 ans et puis une petite de 11 ans, donc j'ai un petit peu de recul. C'est que faut pas forcément chercher à être parfait. Les enfants ne cherchent pas des parents parfaits qui comblent tout leur malheur, enfin qui, on va dire, qui règlent tout leur malheur ou tous leurs problèmes. Voilà, l'idée n'est pas non plus d'éviter qu'un bébé pleure. C'est pas le but. Le but, c'est d'accompagner et d'écouter ce qu'il a à dire. C'est la chose la plus importante. On n'est pas censé répondre exactement, correctement à un pleur de bébé ou à un malheur d'enfant. On ne pourra jamais empêcher un enfant d'être malheureux à l'école à un moment donné, d'avoir un chagrin, de tomber, de se faire mal. Mais le plus important, c'est d'être là quand ils ont besoin et de leur procurer nos bras. Et puis, ça les apaise très bien. Et puis, s'ils continuent de pleurer, c'est bien aussi. Par rapport à, voilà, c'est juste pour dire que l'obligation, c'est pas d'apaiser à tout prix un bébé. Le meilleur apaisement, c'est de l'accompagner, en fait. C'est de l'entourer, de l'envelopper, bien sûr, de chercher des solutions. Mais parfois, la seule solution, c'est de l'envelopper, de l'entourer, d'être là, présent pour l'accueillir et accueillir son chagrin.
Et justement, dans cet ouvrage, vous parlez des différents besoins des bébés. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus?
Alors, les différents besoins des bébés, j'ai essayé de retranscrire la fameuse pyramide de Maslow qui décrit d'abord les besoins fondamentaux, puis au plus haut, c'est l'estime de soi, etc. On va dire que les premiers besoins, c'est des besoins physiologiques, bien sûr, quand on a froid, quand on a faim, etc. Mais c'est aussi le besoin de sécurité corporelle, d'être contenu, d'être tenu. Voilà. Donc ça, c'est la chose principale aussi, d'être en bonne santé, c'est-à-dire que vérifier que le bébé n'a pas de maladie. Et puis il y a un besoin aussi de stabilité, d'harmonie, d'appartenance. L'enfant a besoin de se sentir, enfin, de faire partie d'une famille, de faire partie des êtres humains, d'être écouté, d'être entendu. Voilà, donc il y a vraiment l'idée à la fois corporelle d'être contenu et puis psychique aussi, qu'on lui parle, qu'il soit enveloppé de son... Enfin, c'est Boris Cyrulnik hein, qui dit un bébé a besoin de niches sensorielles, hein, de niches affectives. Et c'est vraiment ça qui est important. Puis en dernier, j'avais mis le besoin d'autonomie et de liberté, parce que l'autonomie et la liberté de mouvement, c'est important pour que le bébé puisse... Enfin, nous, on est comme un des tremplins, on va dire. Et puis le bébé, il va s'autonomiser grâce à nous. Il va faire des allers-retours, il va venir dans nos bras, il va repartir. Et donc, un des besoins, justement, c'est d'écouter ses compétences corporelles, d'écouter ses besoins corporels, et puis de lui permettre de se développer par lui-même. À son rythme, sans qu'on cherche à en rajouter, hein, d'ailleurs. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et donc, la relation humaine est très, très importante dans tous ces besoins. Le besoin fondamental, on va dire, hein, qui est à la base de tout, c'est la relation à l'autre. Voilà, le lien avec le parent qu'il faudra nourrir d'une manière ou d'une autre. C'est ça qui est le plus important, finalement.
Et notamment dans le livre, vous mentionnez une pratique que vous maîtrisez quand même bien, c'est tout ce qui tourne autour du massage bébé. Et donc je pense que ça répond aussi à ces besoins que vous avez mentionnés précédemment. Mais est-ce que vous pourriez nous donner votre vision à ce sujet ?
Alors le massage, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est un petit peu ce qui rassemble la totalité des besoins entre guillemets, puisque il y a de la contenance, il y a de la communication, puisque on masse son bébé en général face à face. Mais le plus important, c'est qu'en fait, il faut le faire quand le bébé est disponible et quand le parent aussi est disponible. La chose la plus importante, c'est que le parent ne le fasse pas par obligation, genre tu vas manger tes épinards parce qu'il y a du fer et c'est très bien. On fait pas le massage parce qu'on a lu que c'était bien pour le développement du bébé. La chose la plus importante, c'est ce que je dis aux parents. Je leur dis, mais si vous avez envie de masser de manière intuitive, vous le faites. Ne vous forcez pas à le faire si vous n'avez pas envie à un moment donné. C'est très important parce qu'il faut que le bébé puisse aussi, à un moment donné, dire, ben non, j'ai pas envie d'être massé. Et là, pour respecter son besoin aussi. Donc, faut se respecter soi. Là, j'ai pas envie de le masser. J'ai pas envie, donc je le fais pas. Voilà, ça n'empêche pas de mettre un rituel en place aussi, hein. Mais en tout cas, voilà. Et puis d'être dans l'échange, c'est une chorégraphie pour moi le massage, comme tout, hein. Dans le contact avec l'enfant, c'est une danse. On voit bien dans le langage, hein, que c'est quand il y a de l'harmonie entre une mère et son bébé. Quand on enregistre les dialogues de babillement, etc., entre la mère et l'enfant, on voit qu'il y a comme une harmonie musicale entre le dialogue de la mère. Il y a des questions-réponses, c'est-à-dire que comme deux instruments qui se répondent dans une partition. Et le massage, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un dialogue, il ne faut pas que ce soit quelque chose, tiens, bah, je te donne ça à manger. Voilà. Il y a des bébés qui ont besoin de toucher, de massage. Au bout d'un 5 minutes, ils en ont marre. On arrête, quoi, c'est tout. On n'insiste pas. Et c'est ça que je veux transmettre, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Voilà, moi, j'étais assez, pour mon premier, je massais deux fois par jour parce que j'étais très disponible, comme beaucoup pour le premier. Et donc, j'avais fait un petit rituel parce que moi, j'en avais besoin, ça me plaisait. Et puis, mon fils, il aimait bien aussi. Donc, je faisais ça assez, de manière assez régulière. Voilà. Et puis, pour ma deuxième, j'ai beaucoup moins de temps, bien sûr. Et j'ai fait ça de manière un peu plus disparate. Et je pense que ça allait aussi. Voilà, donc et chaque enfant, va recevoir... voilà, et puis le massage, c'est pas seulement le massage. Et quand on touche son enfant, quand on le berce, quand on le prend contre son cœur, contre son ventre, on le masse aussi. Hein. Voilà, l'idée, c'est de retrouver... J'aime bien, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle « Le concept du continuum » qui dit que l'important, c'est justement de relier... ce qui se passait dans le ventre et puis le transposer après, mais en le diffusant petit à petit, voilà, en le prolongeant, on va dire, après l'accouchement, qui était le contact du bébé dans le ventre. Voilà, le massage, c'est un prolongement du massage permanent qu'on avait quand on respirait et qu'on massait son bébé dans le ventre. Voilà, quand je donne des cours de yoga pour les femmes enceintes, je leur dis, ben là, vous êtes en train de caresser votre bébé avec votre respiration. c'est assez important de se dire ah oui, ça continue après en fait, ce contact avec mon bébé, c'est oui. joli quoi.
Ouais, voilà. C'est super beau. Sylvie, je sais pas si tu veux partager quelque chose par rapport à tout ce que Sophie nous a partagé. Je pense que tu es assez alignée sur la philosophie qu'elle essaye de transmettre par rapport aux soins des bébés.
Ah oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait du respect des bébés, de justement par rapport au massage, de donner quand on est prêt et de respecter le bébé. Je comprends aussi tout à fait son changement de vie, puisque moi il m'est arrivé la même chose, tu sais, à la naissance de ton frère, où j'ai plus pu continuer la même vie, et puis aussi le côté difficile de l'accouchement. Bon, moi c'était il y a beaucoup plus longtemps, donc c'était exactement pareil. Donc je comprends tout à fait son changement de vie et ce qu'elle a envie de transmettre aux parents autour d'elle pour que la maternité, l'accouchement, les débuts de vie du bébé soient les plus bienveillants, les plus dans le bien-être pour le parent et pour l'enfant. Donc je suis complètement en phase avec ce que dit Sophie et je trouve formidable ce qu'elle a réussi à développer en suivant toutes ses formations et qu'elle a réussi à en faire quelque chose, sa propre méthode. Ça, je trouve ça extraordinaire.
Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être à ton époque aussi, en tant que maman, vous n'aviez pas accès à toutes ces pratiques aussi. Je pense notamment au portage, au massage, etc. Je pense pas que c'était des choses qu'on évoquait à ton époque quand tu venais d'avoir des enfants.
Ah non, nous, il n'y avait rien du tout de tout ça. Rien du tout de tout ça. Fallait qu'on se débrouille. Et puis, comme dit Sophie, je me souviens à la clinique, on nous faisait énormément culpabiliser. J'ai vécu ce qu'elle a dit, ça m'amusait sur le fait qu'on ne pouvait pas sortir parce que le bébé avait perdu du poids. Moi, du coup, comme tu me connais, je trichais en fait. Donc, quand je savais qu'ils allaient arriver pour le peser, je lui donnais tout de suite à manger avant pour qu'il soit au bon poids pour pouvoir sortir. Mais c'est affreux d'arriver à de telles extrémités. Surtout pour le premier, c'est très 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 stressant. On a besoin d'un accompagnement et puis. Et puis après, moi je sais que comme j'ai eu 5 enfants, pour la dernière, il y avait écrit sur ma porte ne surtout rien lui dire, parce qu'en fait moi je supportais plus qu'on me dise faut l'allaiter à la demande, et puis quelques années plus tard c'était plus la mode, donc faut être très rigide sur les heures, et puis après un autre moment faut pas donner de biberon, en fait faut faire confiance à la maman aussi, je pense, et faut être plutôt dans le conseil, dans le entourer la maman et lui donner confiance. Et lui faire confiance, confiance à la maman, confiance au bébé. Moi, c'est toujours ce que j'essaye de dire aux parents. Et quand j'entends dire que les bébés sont extraordinaires, ils sont intelligents, ils sont compétents, mais je suis tellement d'accord et je le vois de plus en plus. Donc moi, je partage totalement ce que Sophie dit, mais vraiment complètement.
Moi, c'est parfait. Et Sophie, il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans votre ouvrage sur l'une des réponses pour apaiser le bébé, c'est toutes les positions que vous présentez sur la manière dont on pose le bébé et ce qu'il faut éviter. Est-ce que vous pourriez peut-être nous partager rapidement quelques bonnes pratiques là-dessus ?
Alors, pour la manière de le poser, en fait, forcément, les premiers mois, on le met plus ou moins sur le dos. Ça, on va pas revenir sur ça, forcément. Mais en tout cas, dans la manière, ne serait-ce que de le changer, au lieu de le changer, le mettre sur le dos, on le met sur le côté, en fait. Déjà, rien que ça le met dans une position beaucoup plus intime et beaucoup moins de soumission, on va dire. Voilà, ça c'est un petit truc tout bête, mais qui change tellement la vie du bébé. Déjà, ça le met dans une position plus active. Et puis, dès que, au lieu de le mettre sur le ventre pour muscler son dos, en fait, on met un boudin sous ses bras, par exemple, à partir de 3-4 mois, pour lui permettre de relever sa tête plus facilement, en fait. Voilà. Et du coup, dans la manière de le poser aussi, de le prendre, c'est assez important de respecter justement sa morphologie qui est particulière. Je le compare à un accordéon, on va dire, avec un gros casque de moto pour faire comprendre aux parents. Voilà, ça c'est important de le prendre de cette manière et pas autrement. Voilà. Et pour l'aider justement, c'est de lui permettre de développer par lui-même ses compétences et de le laisser chercher. Voilà, quand il va être il va se retourner tout seul, c'est lui qui décide du moment où il se retourne. Éventuellement, on peut le mettre donc sur le ventre avec un bouton sous les bras vers 3-4 mois. Dans le bain, on peut le prendre aussi sous le sternum, plutôt que de le mettre sur le dos, on le met dans une position active. comme un bébé nageur, en fait. Voilà. Et même quand on le prend dans les bras, on le met dans une position vers l'avant au lieu de le mettre sur le dos. Dès qu'il a 3-4 mois, en fait, il y a une sorte de développement qui va être assez fulgurant et qui va lui permettre justement d'être dans une position beaucoup plus active. J'appelle ça le bébé avion, hein, bébé en position d'avion ou panthère, voilà, ce qui lui permet de déployer, de muscler son dos en douceur et puis de se déployer aussi, pareil sur le portage. Hein, quand on, j'ai un petit peu à l'encontre de la mode qui voudrait qu'on le porte systématiquement face à soi. Moi, il y a 22 ans, quand j'ai eu mon premier enfant, il n'y avait pas vraiment d'interdiction sur la manière de les porter. Et mon fils, dès un mois et demi, deux mois, il me poussait comme ça, il me repoussait pour voir de l'autre côté, pour voir face à la route. Je l'ai écouté, je l'ai mis face à la route. J'avais un système de portage qui le permettait. En respectant sa physiologie, hein, ça la mettait en position assise, en fait, face à la route. Voilà. Et après, quand la mode, justement, de porter systématiquement son bébé face à soi est arrivée, je comprenais pas. Parce que moi, mes enfants, ils m'avaient dit autre chose. Donc, moi, je dis toujours aux parents, écoutez-vous. Écoutez votre bébé. Qu'est-ce que vous dit votre bébé? À quel moment il a envie de voir face à la route? Et j'ai été, on va dire, confortée par une chercheuse en psychologie cognitive qui s'appelle Marianne Barburos, qui, elle, dit qu'il faut mettre le bébé dans le flux visuel parce que ça développe ses compétences futures de marche, en fait. On est des futurs marcheurs. Et donc, quand on met face à la route, c'est plutôt bien. Voilà, faut pas le mettre quand on est rue de Rennes, enfin dans une rue hyper... on est d'accord avec des voitures qui passent à ras. Mais quand on est dans un jardin, quand on est chez soi, c'est le mettre en position de pouvoir, en fait, de position de futur marcheur, en fait. Et ça développe tout son système visuel, oculaire, son système vestibulaire, donc d'équilibration. Donc c'est assez intéressant. Et donc j'ai été validée avec ça. Bon, je m'oppose toujours aux écoles de portage, mais c'est pas grave. Moi je dis, enfin après j'ai pas de position, je suis pas dogmatique. J'ai des copains qui sont profs de tango, ils portaient leur bébé dos à la route, mais ils dansaient avec lui aussi dos à la route. Ils étaient tous les deux en sandwich, le bébé en sandwich au milieu, c'était trop mignon.
Génial.
Donc chacun fait comme. Enfin moi c'est, j'ai envie de redonner au pouvoir. On veut donner du pouvoir au bébé. Enfin on lui dit il est compétent. Ça moi j'ai envie de dire aux parents mais vous êtes compétents. Moi je vous donne des clés, je vous donne un canevas. Et puis vous en faites vous brodez comme vous voulez derrière. C'est vous qui êtes 24 heures sur 24 avec votre bébé. C'est pas moi.
Bah,
c'est
oui.
Vous qui savez. Mais... c'est pas moi. Moi, je sais pas comment vous faites chaque jour votre bébé. Il sera bien si vous êtes bien. Moi, je suis pas très ritualisée, hein, c'est-à-dire que j'aime pas trop les rituels dans la journée. Je suis assez désordonnée entre guillemets, et donc mes bébés étaient bien avec moi, avec ce désordre, c'était ok. Moi, par exemple, ils auraient jamais pu avoir un doudou avec moi. J'étais tellement désordonnée que je l'aurais bien pu. Ils le savaient, donc ils se débrouillaient, soit avec mes cheveux, soit avec mon avant-bras, soit avec mes propres cheveux. Ils n'ont jamais eu de doudou, quoi. Et voilà, donc je suis passée au travers du doudou, comme ça. Et donc, il n'y a pas de règle, en fait. C'est ça qui est... Et j'aime beaucoup, il y a un auteur que j'aime beaucoup, que je cite dans mon livre, qui s'appelle Jesper Juhl, qui est un psychopédagogue danois, je crois. Et il dit, regarde, il a un livre que j'adore qui s'appelle « Regarde ton bébé est compétent ». Regarde ton enfant, pardon, est compétent. Il a beaucoup travaillé sur les enfants, pas trop sur les bébés. Et il montre à quel point les enfants sont intelligents, sont compétents. Ils ont une intelligence émotionnelle absolument incroyable. Et c'était Dolto qui disait aussi, dans la maison, il y a deux qui savent tout, c'est le bébé et le chien. Ça sert à rien de mentir à un enfant. Les enfants comprennent tout. Si par exemple vous invitez, j'adore cette blague, mais elle est vraie, si vous invitez quelqu'un que vous n'aimez pas, mais que vous ne savez pas que vous n'aimez pas, par politesse, vous l'invitez. Et cette personne, par exemple, vous prend de l'énergie, et votre bébé, lui, le sent. Et si vous restez poli, votre enfant, il ne va pas rester poli. Il se met à pleurer, à hurler. Et vous comprenez pas pourquoi, je dis, mais pourquoi il pleure et tout. Puis après coup, vous analysez.
Ah oui, c'est certain.
Après coup, ah oui, et mon bébé, il m'a sauvé de la situation, en fait. Il a mis cette personne dehors, parce que moi, j'y arrivais pas.
C'est certain.
Donc c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'ils ont des compétences, et voilà, et tout ce que font, et c'est ce que dit Jesper Juhl aussi, tout ce que font les enfants, ils le font par amour, en fait. Même quand ils nous rendent la vie des fois impossible, on comprend pas pourquoi. On comprendra peut-être un an plus tard ou 10 ans plus tard. Mais sur le coup, on n'arrive pas à analyser. Et souvent, c'est ce que je vois aussi en transgénérationnel, hein, c'est que les bébés et les enfants font ressurgir des problématiques générationnelles. Et c'est ce que explique la formation que je fais, c'est avec Bruno Clavier. Il a écrit un livre qui est super, qui s'appelle ces enfants qui veulent soigner leurs parents, guérir leurs parents. Je crois. C'est extraordinaire. On comprend énormément de choses. C'est-à-dire que souvent, on attribue. Il y a beaucoup de livres sur la colère des enfants, comment réguler la colère des enfants. Et très souvent, la colère des enfants, ça vient des parents. Ça vient parfois d'un problème transgénérationnel quand les parents n'arrivent pas à analyser le problème, quoi. Donc c'est quand on voit un petit peu de manière globale un petit peu le tableau, on se dit que c'est jamais l'enfant le problème. Voilà, c'est Jesper Juhl, il dit c'est vous qui êtes responsable de la qualité de la relation. C'est jamais l'enfant. Si ça foire, c'est pas la faute de l'enfant.
Ah bah ça, je pense qu'on est complètement aligné avec ça.
Voilà, et c'est vraiment, quand on regarde ça sous cet angle-là, on est beaucoup moins dans vouloir faire de la part des parents, c'est-à-dire qu'on va permettre à l'enfant de s'exprimer, au contraire. Et moi, c'est ce que je dis hein, dans mon livre Bébé Yogi, dans à peu près tout ce que je décris sur le développement des bébés, c'est ça sert à rien de tirer sur les feuilles d'un arbre pour qu'il pousse plus vite. Un enfant va pousser, il faut l'arroser. Il faut l'arroser de bienveillance, de regard, de bras, de mains, voilà, de l'envelopper, de donner cette niche sensorielle, affective, qui va lui permettre de pousser, de grandir. Mais il n'y a pas besoin de le pousser, comme il n'y a pas besoin de le faire marcher. Ça sert à rien. Ça ne fait que retarder les choses. Et en même temps, je vais dire pour les parents qui culpabiliseraient, parce qu'on culpabilise beaucoup les parents en ce moment, moi j'ai fait plein d'erreurs pour mon aîné. Je l'ai fait marcher, je l'ai mis assis trop tôt, il était trop mignon, il a quand même réussi à s'échapper de mes bras, à dire non maman, je vais y arriver, t'inquiète pas. Il m'a démontré qu'il était très compétent, qu'il y arriverait quand même. Et c'est super, c'est ce que je dis aux parents, et ça, je sens un apaisement chez eux, à chaque fois, je me dis, c'est extraordinaire, je leur dis, mais vous savez, moi, j'ai fait plein d'erreurs pour mon aîné. Et il s'en est bien sorti quand même. C'est plutôt un gars très sympa. J'ai fait coucou, j'ai fait médecine, là, en ce moment. Donc, voilà, il y a plein des auteurs que j'aime bien, je sais plus comment il s'appelle, c'est un auteur allemand aussi, qui dit que les enfants sont naturellement enthousiastes. Il n'y a pas besoin de les stimuler. Ça ne sert à rien. C'est naturellement, ils vont être intéressés par la vie. Naturellement, ils sont intéressés par tout ce qu'ils font. Ils sont capables de, je me rappelle mon fils, il prenait un tube de pellicule photo, vous savez, les petits tubes noirs, là. Il s'amusait à ouvrir et fermer. Il n'arrivait pas à ouvrir, donc il s'énervait. Puis il ouvrait, puis il était trop content. Puis il refermait. Puis recommençait. Comme les petits chats, vous savez, avec les pelotes qui poussent la pelote de laine et puis qui la poursuivent. Et ils sont d'une persévérance. On dit, il faut concentrer les enfants, il faut les aider à se concentrer, il faut les aider. Non. Non. Arrêtez tout. Ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien. Ça veut pas dire qu'il faudra pas les aider à un moment donné. S'ils ont besoin d'aide, je suis là. Mais s'ils ont pas besoin d'aide, c'est génial. J'ai juste à les regarder. C'est que du bonheur. Moi, quand les enfants se développaient, se mettaient debout, ma deuxième surtout, j'ai beaucoup observé, et qu'elle se mettait debout, qu'elle commençait à marcher, tout ça, qu'elle crapahutait, moi je regardais, c'était de l'art pur. C'est regarder vos enfants comme ils sont compétents, regarder comme ils sont beaux, et c'est du spectacle, quoi. C'est vraiment, on est là, et ça fait tellement du bien de se dire, ben, ma compétence à moi, c'est de faire en sorte que mon enfant soit et confiance en lui, qu'il l'estime pour lui-même et qu'il puisse se développer par lui-même. C'est ça. C'est que j'ai juste à le regarder, en fait, et à profiter. Et m'occuper de ma vie à moi, quoi.
Je pense que vous transmettez aussi quelque chose de beaucoup plus instinctif, en fait, que ce qu'on essaye de nous transmettre initialement en mettant des règles qui culpabilisent énormément les parents. C'est qu'en fait, il faut beaucoup plus écouter son instinct de règles, et ses émotions.
C'est ça. C'est ce que dit Jesper Juhl, hein. Il dit, lui, enfin, c'est presque des fois à l'extrême, hein. Il dit, il n'y a pas de méthode. C'est vraiment, et il parle d'authenticité des parents. Il dit, faut être authentique. Ça veut pas dire qu'il faut hurler sur l'enfant, hein. Mais quand on est en colère, ça sert à rien de faire semblant, de mettre des petites fleurs. Mm. Il faut parler de manière authentique. Ça veut pas dire qu'il faut hurler, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Mais de mettre dans notre voix la vérité de nos émotions. J'ai une copine là qui a écrit un bouquin récemment là qui s'appelle Bien dans ma voix, et c'est ce qu'elle dit. Moi, je veux pas vous filer des astuces pour bien parler. Ça sert à rien. Ce que j'aimerais, c'est que vous parliez de manière authentique. C'est ça qui est important. Et comme ça, votre voix, elle va porter. Comme ça que ça va marcher. C'est comme ça que vos enfants vous entendent, vont vous entendre. C'est en étant authentique. Voilà. Et en respectant, bien sûr, leur intégrité physique, psychique, corporelle, quoi.
Ben oui, oui. C'est certain. Merci beaucoup Sophie pour tout ce que vous transmettez. On arrive déjà à la fin de cet entretien et je pense que on va vous proposer d'enregistrer un prochain épisode sur le yoga natal et prénatal parce que c'est un autre sujet qui me passionne. Mais je pense qu'il nous faudra à nouveau 40 minutes pour l'enregistrer. Mais merci en tout cas mille fois pour tout ce que vous avez partagé. Nous on est complètement alignés avec votre vision et je pense que c'est important de continuer à partager ça aux parents.
Ouais, merci de m'avoir invitée en tout cas. C'était très
Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux sortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.